6 et les 13 heures.
Like I said, it don't matter, baby.
Salut à tous, c'est Sweet Home Chicago numéro 1027 en ce samedi 20 janvier. Bon anniversaire Jean-Philippe, j'espère que tu vas bien, passe un bon week-end. J'espère que ça va aussi de votre côté, de l'autre côté du poste. On vient de démarrer avec Jason Ritchie. Jason Ritchie, le punk du blues, On the Bad Kind, son groupe, et l'album Approved by Snakes, le disque du mois, bien sûr, pour janvier 2018. Il y aura une nouvelle émission dès la semaine prochaine, le 27, donc trois émissions en janvier, puis ensuite un petit break, on se retrouvera le 10 février. Je vous le dis tout de suite parce que c'est pas tout à fait régulier, c'est pas forcément un samedi sur deux, mais pas loin. On vous donne tout de suite le sommaire de cette émission. C'est très simple. En première heure, il y aura Arnaud Fradin, leader de Molten Milk, au téléphone, en interview. Vous pourrez lui poser toutes vos questions sur le Facebook Sweet Home Chicago, bien sûr, comme à l'accoutumée. Bienvenue à tous, bienvenue à toutes. Et on est ensemble jusqu'à 16h. En troisième heure, ce sera vos dédicaces. Vous savez que vous pouvez les réclamer également sur le Facebook. Et puis, si vous n'avez pas Facebook, bah, c'est tout simple. Vous m'envoyez un petit mail. Vous allez sur le site internet de l'émission. Tiens, blues.radio666.com. Il y a un nouvel album qui est à gagner sur la page cadeau. J'espère que vous suivez l'actu de Sweet Home. Arnaud Fradin pour le Roots Combo, pour Molten Milk, pour Staggerly également. On en parlera tout à l'heure. En attendant d'écouter Molten Milk, voici quelques nouveautés US, notamment Monsieur Charlie Musselwhite qui a sorti il y a quelques semaines ce I Ain't Lying que je me suis enfin procuré pour vous. Un album de facture tout à fait classique dont j'ai extrait ce superbe Always Been Your Friend. J'adore Charlie Musselwhite, je ne sais pas vous.
Remember me if we never meet again. Baby, will you please remember me? Honey, if we never meet again.
Passé avec Charlie Musselwhite, notamment sur cet album, mais je pense que dans toute sa discographie, qui a démarré il y a une bonne cinquantaine d'années, je crois que son premier album remonte à 1967, dans toute sa discographie à Charlie Musselwhite, il n'y a absolument rien à jeter, même à une période où ça allait un petit peu moins bien, et puis là, depuis quelques années, c'est vraiment le vent en poupe, et avec très très grand plaisir qu'on le revoit sur scène. La dernière fois pour moi, c'était en 2011, et c'était un plaisir immense. Voilà, longue vie à Charlie Musselwhite. On poursuit avec Bernard Allison, le fils de l'autre, et puis sachez que Roof Records, qui sort ce disque de Bernard Allison sort également un 45 tours, hommage à Luther Allison qui nous a quittés en août 1997. Un 45 tours qui comprend deux titres, dont l'un enregistré lors de sa toute dernière apparition en studio, et puis un autre enregistré encore 20 ans plus tôt, 1977, en live. Et puis, à cette occasion, édite également toute une espèce de coffret, soit en LP, soit en CD, avec plein de choses. Un truc un petit peu onéreux, mais quand on s'intéresse à l'actu de Luther Allison maintenant, quand on s'intéresse surtout à la discographie de Luther Allison et à sa carrière, et puis maintenant à l'actu de Bernard, eh bien je pense que c'est le genre d'objet qu'il ne faut pas laisser passer. Surtout que, à mon avis, dans quelques mois, il n'y en aura plus un seul. On poursuit avec Bernard Allison, et ensuite on écoutera le père, Luther. Voici Bernard dans l'album Let It Go. Voici Cruising for a Bluesing. Pour Bernard Allison, son tout nouvel album qui s'appelle Let It Go. Premier album, on va dire, millésimé 2018 chez Roof Records. Un album qui contient 12 titres que je vous engage à écouter de plus près et peut-être acquérir, pourquoi pas. On poursuit avec, comme annoncé, Monsieur Luther Allison, You Can't Always Get What You Want, reprise des Stones, bien sûr. Un titre enregistré en juillet 1997.
Heard today at the reception. Glass of wine in her hand. I know she was going to meet her connection. At her feet was this tall, footloose man. You can't always get what you wanna. I say you can't always get what you wanna. You can't always get what you wanna. But if you try sometime, you might find you can get what you need. Tell you again, you can get what you need. All right now. I went down to the demonstration to get my fair share of abuse.
Ce titre, c'est un véritable document enregistré en juillet 1997. Vous savez que Luther Allison nous avait quitté le mois suivant. réédité par Roof Records, et ça fait partie de ce fabuleux coffret dont je vous parlais un petit peu plus haut. On poursuit avec un extrait de la discographie de notre invité. Tout à l'heure, on aura Arnaud Fradin au téléphone. Si vous avez des questions à lui poser, vous allez directement sur le Facebook Sweet Home Chicago. Bien sûr, si vous n'êtes pas encore inscrit, vous demandez à l'être. Et on va écouter, bien sûr, un extrait de l'album Milk and Green. On va écouter un petit peu plus tard, bien entendu, un extrait de l'album tout nouveau du Roots Combo. Mais on va revenir sur le live de 2013 qui avait été enregistré au Stereolux à Nantes. On Stage Tonight, je vous propose un extrait de cet album avec Human World.
We got it.
pas mal de changements de personnel au sein du Malted Milk. On en parlera tout à l'heure avec Arnaud Fradin. Depuis la création du groupe, je crois, vers 1998. J'en suis pas tout à fait certain. On lui posera également la question. Et après ce live de 2013, on a pu avoir droit à un album en collaboration avec la chanteuse de Memphis, Tony Green. Je crois que c'était grâce à l'ami Sébastien Danchin qu'ils avaient mis, le producteur Sébastien Danchin qu'ils avaient mis en rapport, en contact. En 2014, ils avaient enregistré ce Milk on Green de Malted Milk and Tony Green. Donc voici Just Call Me. Voilà, extrait de l'album donc Malted Milk and Tony Green, Milk and Green, qui était sorti, enregistré en 2014, en tout cas pour le compte de Nueva Onda, juste après cet extrait du live Stereolux. Je suis au téléphone avec Arnaud Fradin. Ça va, Arnaud ?
Ça va, toi ?
Ah, ben écoute, on t'entend super quand tu étais dans la pièce à côté, derrière l'aquarium. Tu es à Nantes, c'est ça ?
Oui, exactement.
À la maison ?
à la maison tranquille, le samedi midi.
Tranquille, et tranquille, mais peut-être toujours entre deux concerts, je sais pas.
Ouais, exactement, ouais, ouais, bah, une semaine un peu chargée. On était avec le Rose Combo en concert au studio de l'Ermitage, donc mardi dernier, et puis jeudi dernier, on était à Nantes, faire ailleurs, pour un showcase pour la sortie de l'album, quoi.
Pour la sortie de l'album, l'album dont on va parler tout à l'heure. Et puis, en attendant, peut-être au début de cette interview, Arnaud, ça fait déjà presque 4 ans que ça t'est pas parlé, en tout cas à la radio.
Ouais, ça passe vite.
Ça passe vite, hein. Et ouais. C'était, je sais plus à propos de quel album c'était.
Je crois que c'était pour Get Some.
Ah oui, Get Some, exact. Ouais, ouais, putain, ouais. Ça remonte. Et ouais. Du coup, alors moi, je t'avais pas perdu de vue, mais peut-être les auditeurs, si, quoique, bah, tous tes albums sont passés depuis, bien sûr, dans la radio. Mais je voudrais quand même qu'on intervienne quelques minutes, qu'on brosse un petit peu l'historique rapide de Multilmix. Je disais tout à l'heure, création du groupe 1998, c'est ça ou je me
gourre? Exactement, ouais, tout à fait, ouais.
Voilà, donc ça fait 20 ans, ouais. Ça y est, ouais. Avec pas mal de changements de personnages. Je crois qu'au départ, c'était surtout l'affaire de toi et de Manu.
Ouais, Manu tout à fait, ouais, Manu, ouais, exactement, et Manu Frangiol, tous les deux, on était un peu les deux éléments qui s'occupaient du projet, et puis après, on a effectivement... joué quand même pour quelques années au début avec Michel Cattel pour batteur, oui. Et Jeff Jean-François Vincendo à la basse. Et puis après, bah, c'est vrai que ça a évolué, il y a eu de différentes périodes. Manu lui a quitté le groupe en 2009.
Voilà, oui, il a passé une bonne dizaine d'années avec toi.
Et ah puis... oui, carrément. Ouais, ah, c'était... Voir, ouais, tout à fait. Et puis lui, il part aux États-Unis, donc depuis 4-5 ans, là, il est revenu. Il n'y a pas longtemps là sur en France, donc voilà, mais c'est vrai que voilà, chacun a suivi un petit peu son chemin.
Ouais.
depuis tout ce temps-là, quoi.
Et donc depuis 2008, on va dire que Multilmix a subi un nouveau tournant, que ce soit au niveau du changement de personnel, mais également artistiquement, parce que au départ c'était surtout du blues, on va dire traditionnel Chicago, ouais. Électrique.
Ouais, tout à fait, ouais.
Et puis petit à petit, bah, on vient de l'entendre, on a lorgné de plus en plus vers la funk, peut-être aussi avec l'apport des musiciens cannais que sont les Spoonful, il y avait Gilles.
Carrément, bien sûr, voilà. C'était un ensemble, je pense que c'est une synergie apportée par eux, puis je pense insufflée au départ par ma rencontre avec Carl Davis qui a vécu à Nantes quelques temps, avec qui j'ai fait aussi un projet en parallèle et qui m'a un peu fait découvrir, je sais pas moi, des gens comme Al Green ou tout le courant sol que je connaissais beaucoup moins que le blues en fait.
Al Green, entre parenthèses, qui n'a pas de lien de parenté avec Tony Green.
Non, d'accord. Pas du tout. Mais, non, mais c'est vrai que c'était assez important cette rencontre-là parce que c'est... Lui, Carl jouait du blues et c'est quand même à travers ça qu'on s'est rencontré, mais c'est vrai que quand j'ai découvert Carl, j'ai aussi découvert un chanteur de soul. Et c'est vrai que ça m'a ouvert un peu les oreilles et puis je me suis dit c'est intéressant et c'est finalement proche pour moi au niveau d'énergie et au niveau de l'émotion de blues. Donc voilà, puis je me suis aperçu que c'est vrai qu'il n'y avait pas forcément de séparation. Après je serais parti à Memphis, je me suis rendu compte que bon, là-bas, il n'y avait pas vraiment de différence entre la soul et du blues, quoi.
Il y a des questions qui arrivent sur le Facebook Sweet Home Chicago. Il y a notamment l'ami Thierry Langrand qui te dit salut. Arnaud, quelles influences t'ont amené à ce groove? Est-ce que c'est de Al Green dont on parle? Est-ce que c'est Carl W. Davis qui a été le déclencheur de ce groove là qu'on entend?
Je pense que c'est un ensemble de choses. Franchement, les influences sont diverses, que ça peut aller vraiment du funk pur aux choses qu'on va plutôt définir comme du rhythm and blues au départ. Moi, je pense à des artistes... je pense que le morceau qu'on a entendu avant, le premier morceau, dans nos oreilles, on avait aussi un peu des titres, même si c'est quand même différent, c'est un peu plus moderne,
ouais.
Mais des titres à la Ike and Tina Turner. Un côté un peu rock.
Tu parles de l'époque Capitol avec River Deep, Mandel High.
Ouais, genre de truc là, quoi. Un peu, une espèce de truc un peu lancinant et groove et solide, quoi.
D'accord.
Et je sais que dans Ike and Tina Turner, il y a des morceaux, certains morceaux que j'adore pour ça, espèce de dépouillement, puis c'est pour les productions, enfin, l'énergie qui est un peu rock finalement, dans l'esprit, quoi. Enfin, dans le chant d'ailleurs, Tony, elle a aussi un peu ce côté-là, quoi. Hein, c'est très hargneux, quoi.
Voilà, et puis quand on parle de groove, on peut penser également à ce genre de choses.
Ouais.
Ça, c'est vraiment devenu la pâte Multilmix au fil de ces dernières années. Une espèce de machine à danser. Et là, on se dirige peut-être davantage vers un James Brown, je sais pas.
Oui, carrément, oui. Ben là, on est plus du côté funky à la James, quoi. Et c'est sûr, ouais, il y avait une influence sur ce titre-là de ça. Et puis aussi un petit peu de la Nouvelle-Orléans. sur le riff de cuivre.
Oui, et bah oui.
On va dire que c'est un mélange de funk, ouais, de funk assez répétitif avec, avec le riff un peu New Orleans derrière en cuivre. Ouais, je pense qu'il y a. Je pense qu'on fait, il y a effectivement. Des fois, on se pose pas trop la question d'ailleurs savoir où ça vient vraiment. Non, mais c'est enfin, je veux dire, c'est sûr qu'il y a des influences, quoi. Il y en a toujours eu, de toute façon, et puis c'est normal. Hein.
Les cuivres, c'est important dans les arrangements, c'est important pour soutenir l'ensemble, ou c'est carrément un instrument et un seul instrument à part entière.
Bah, moi, je pense que c'est assez important parce que ça aussi fait partie de l'évolution de l'identité du groupe jusqu'ici. Et je pense que ouais, c'est quelque chose qui fait vraiment partie de la composante musicale de ce qu'on fait. Maintenant, je pense qu'avec le temps, ça évoluera aussi et que, je sais pas, sur le prochain album, il y aura toujours des clips, c'est évident, mais ça dépend sur quel morceau. Je pense que c'est pas toujours... faut que ça soit, faut que ça soit juste, pas justifié, mais faut vraiment que ça soit nécessaire pour qu'il y ait des cuivres, faut pas plus des cuivres, faut mettre des cuivres non plus, quoi. Et c'est vrai que la musique qu'on a joué depuis quelques albums, elle respire les cuivres, c'est évident.
Est-ce que ça veut dire que tu pourrais aussi explorer des univers comme celui d'Otis Redding, un petit peu à la Dapton, comme faisait Sharon Jones, comme faisait Charles
Ouais, Renaud. Ouais, je pense pas qu'on, nous, dans le Maldanuc, qu'on n'a pas forcément une démarche de faire un truc vraiment trop vintage non plus.
Ouais, voilà, ouais, d'accord.
Parce que je pense qu'on aime bien aussi prendre dans la modernité, mais en même temps, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans les courants de la soul music, c'est hyper varié, parce que il y a beaucoup d'artistes que j'adore. Moi, je pense à Alabama Shakes, par exemple, qui a un truc qui est connu plus comme un groupe de rock que comme un groupe de blues, si on veut. Mais que je trouve hyper intéressant à plein de niveaux, quoi.
Et un groupe comme Vintage Trouble, par exemple.
Ah, je trouve ça super.
Ouais.
Je trouve ça bien. Je préfère quand même les Black Keys ou Rival Sons, par exemple.
Ah ouais, d'accord.
Rival Sons, j'aime bien. T'as des trucs que j'écoutais pas forcément avant, d'ailleurs, qui sont plus rock, mais j'aime bien, en fait. Quoi. C'est des choses que j'ai commencé à écouter. Finalement, c'est pas pourquoi j'ai pas commencé à écouter du Led Zeppelin au début quand j'ai fait du blues, quoi.
Oui. Eh ben oui, on a peut-être tous eu des entrées au blues un peu différentes.
Ouais, carrément, ouais, puis c'est ça, puis je me suis concentré aussi sur d'autres choses d'ailleurs. Non, j'adore Led Zeppelin, j'ai toujours aimé, par exemple, Led Zeppelin. Mais non, je sais que c'est aussi un groupe qui continue à influencer, quand t'écoutes Vintage Trouble ou t'écoutes Rival Sons, bah, c'est vrai que tu retrouves quand même cette énergie rock, batterie qu'on voit et tout.
C'est
ça, je trouve ça super. Hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des groupes qui arrivent à prendre toutes ces influences-là et en faire quelque chose d'assez personnel, peut-être, d'une certaine manière. Ouais.
Voilà, c'est une espèce de suite logique de l'évolution de la musique. Tu cites Led Zepp, on se reporte 50 ans en arrière pour la création du groupe, et puis ils continuent à faire des ramifications. C'est peut-être ça aussi, une légende, je ne sais pas.
Oui, carrément. Ouais, je pense que d'ailleurs... comment il s'appelle le chanteur de Led Zepp
Robert Plant.
Oh, Robert Plant, ouais, c'est un bon exemple parce que lui il continue à chercher d'autres choses en fait. Enfin, c'est intéressant.
Voilà.
On s'éloigne peut-être un peu du sujet, mais.
C'est intéressant aussi.
La musique ethnique et la musique du monde en fait, quelque part, il s'est rapproché de la musique du monde quoi. C'est chouette. Enfin, je trouve que c'est chouette, il n'est pas resté planté dans son image de chanteur de groupe de rock anglais quoi.
Ce qui ne l'empêche pas de continuer à faire 2-3 morceaux de Led Zepp à chacune de ses apparitions scéniques.
Tout à fait, mais je pense que c'est en tout cas une belle carrière.
C'est vrai, Arnaud, tu as raison, je t'ai pas interviewé pour qu'on parle de Robert Plant, mais c'est intéressant quand même. Moi, je pensais pas vraiment qu'on allait aller vers ce genre. D'autant plus que ton actu, c'est pratiquement l'opposé, c'est-à-dire qu'on revient à quelque chose de beaucoup plus dépouillé. Mais encore avant de parler du Roots Combo, je voudrais quand même qu'on ait un petit mot à propos de Stagger Lee, qui est une autre de tes formations. Parce que ça me paraît vraiment intéressant. Moi, j'avais pu te voir il y a déjà un an et demi. C'était dans un petit bar à Nantes en juin 2016. Ah, la Dynamo, voilà, c'était absolument extraordinaire. On a assisté, nous les spectateurs, c'était plein à craquer, un festival de Chicago Blues avec un... Il y a beaucoup de bruit derrière toi, Arnaud, je sais pas, tu fais des travaux chez toi.
C'est bon. Je suis en train de relever le truc de la fenêtre.
Tout va bien. Tu m'appelles quand les frites sont cuites, surtout, parce que c'est important que ça se mange chaud.
Dis-moi.
Alors, Stagger Lee, donc, je vais te laisser citer la suite des musiciens. À la batterie, donc, bien sûr, Fabrice Bessois. À l'harmonica, Thomas Troussier, qu'on retrouve dans le rythme combo. C'est toujours Miguel Amoum à la basse.
Exact. Ouais,
et à l'autre guitare, parce que toi, bien sûr, c'est guitare lead, c'est toujours Max Genouel, c'est ça?
Oui, exactement.
Parce que Max, lui, de son côté, on a découvert ça la semaine dernière en interviewant Soisig Le Breton des Lazy Buddies. Max, lui, participe à 5 formations, il est un petit peu comme toi, il est un petit peu à géométrie variable. Stagger Lee, c'est un groupe pour s'amuser, c'est un groupe pour quoi faire, dis-moi.
Bah, en fait, je t'avoue qu'on ne sait pas trop. Non, mais en fait, on a monté ça parce que... pense qu'on était tous un peu frustrés parce que ce soit Max, moi, Thomas Troussier, Miguel Amoum jouait beaucoup moins parce que lui, bon, lui, il a un vrai travail, il est architecte.
Oui, et puis il se produisait aussi avec Bo Weevil, je crois.
Exactement, ouais, carrément, mais je fais de temps en temps, mais beaucoup moins qu'avant. Ouais. Du coup, bah, c'est vrai qu'il y a eu. Puis moi, j'avais un peu cette envie depuis longtemps de refaire du blues électrique. Et c'est vrai que c'était pas le sujet de le faire avec Matt Danmick, ça n'a pas vraiment eu de sens. Donc du coup. Et vu qu'on voulait faire des reprises et se faire plaisir sans pression,
oui.
On s'est dit bah tiens on va monter un groupe, on va faire des dates, on n'a pas d'obligation, on n'a pas d'exigence particulière et ne serait-ce que de vouloir choisir un répertoire un petit peu original quand même et piocher dans un répertoire qu'on aime bien mais hyper large aussi quoi. Enfin je veux dire on est plus dans du blues je dirais électrique que vraiment du Chicago blues pur.
Oui.
Et du coup on a passé du temps ensemble à écouter plein d'artistes. D'ailleurs ça m'a permis aussi de découvrir des choses que je connaissais pas donc c'est toujours intéressant.
Des harmonicistes, des guitaristes principalement.
Ouais ben un peu tout en fait je pense qu'il y a dans ce qu'on a pioché comme morceau il y a vraiment une je pense qu'il y a plein d'artistes différents d'époques différentes aussi d'ailleurs. Et du coup, ouais, avec des choses des fois qui peuvent l'orner quasiment vers des trucs un peu rock en fait, quoi, peut-être quoi, rock et blues, mais d'une manière assez brute, quoi, c'est pas moderne, quoi. Mais c'est intéressant. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup depuis qu'on a commencé à faire des dates, on a continué à jouer. Ça, je pense que les concerts ont évolué dans le bon sens, et puis
ouais.
Et puis on a réussi à avoir assez rapidement un son de groupe parce que mine de rien, bah, avec toutes nos bah c'est quand même finalement que des musiciens qui suivent du blues depuis pas mal d'années et du coup bah, se retrouver ensemble tout ça c'était bon, vraiment un plaisir quoi.
Et du coup par rapport à Multimix ça te permet de continuer à jouer ce que tu faisais déjà en duo avec ouais, un harmoniciste.
Ouais carrément ouais tout à fait. Bah, y avait cette idée là aussi Thomas. Il y avait déjà le fait qu'on joue ensemble avec Thomas en acoustique et c'est vrai que bon bah quand sachant qu'en plus Thomas au départ est un harmoniciste plutôt électrique, hein, même si aujourd'hui c'est moins le cas, parce qu'il joue beaucoup en acoustique avec moi dans Rose Combo.
Ouais.
Mais du coup, ouais, dans l'idée, bien sûr, quoi, c'était l'apport de l'harmonica dans ce groupe-là était importante. Et je trouve que c'est super quoi, c'est hyper intéressant en tout cas, puis le jeu de guitare électrique, le jeu qu'il peut y avoir en tour de gratte électrique, j'adore aussi.
J'avais retrouvé dans ce concert, je m'en souviens encore, des petits phrases à la Albert Collins, qu'on en a entendu un petit peu tout à l'heure, et puis, puis des passages à la B.B. King, franchement, disons-le, y a une patte de toute façon, bien sûr, il y a une patte Arnaud Fradin, et puis j'ai envie de dire aussi, ça je voulais le placer à un moment de l'interview, Varno, je trouve que, alors, prends-le comme un compliment, mais tu continues à faire des progrès au chant. Je sais pas jusqu'où tu vas aller, quoi.
Bah écoute, je sais pas trop. Ouais, je me rends moins compte, mais après, j'ai eu des périodes depuis quelques années où j'ai pris des cours de chant.
C'est ce que j'allais te demander, voilà.
Chose que j'avais jamais faite avant. J'ai une approche un peu aussi, je pense, un peu différente quand j'ai commencé à jouer en acoustique aussi, parce que bon, ça fait quand même. Finalement, le Rose Combo est assez récent, mais ça fait quand même 3-4 ans que je joue en acoustique avec Thomas, par exemple.
Oui, oui, oui.
Et le revenir en acoustique, ça m'a permis de faire des concerts avec un dépouillement d'instruments beaucoup plus important que dans Malton Milk.
J'avais pu m'en rendre compte à l'ouverture de l'avant-dernier blues en Chenin. Hein, c'était,
ouais.
Je ne sais plus, fin août 2016.
Oui,
exactement. C'était très, très bien, ça. C'était en ouverture de ce festival.
Ouais, carrément. Bah, oui.
Et puis un répertoire assis, j'ai envie de dire, au sens propre comme au sens figuré,
ouais,
quelque
carrément.
Chose de bien carré, quoi.
Ouais, tout à fait. Et du coup, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a donné envie, en tout cas qui m'a donné plus d'espace au chant et qui m'a permis aussi de me rendre compte que l'approche pouvait être différente. Et c'est vrai que auparavant, j'avais fait beaucoup de concerts au départ de ma carrière, pas mal de concerts en acoustique, énormément d'ailleurs,
oui.
Dans des bars et tout ça. Et pour qu'on se fasse entendre, il fallait envoyer un peu le bois, quoi. Et c'est vrai que là, ça m'a fait un déclic, ces cours de chant que j'ai eu. Et puis, personne très intéressante qui m'a aussi apporté la force tranquille de ce que ça peut être sans forcément que ça soit en force. Donc ça peut être
d'accord.
En puissance mais sans être en force quoi. Et c'est vrai que j'ai appris ça, ça m'a fait me rendre compte de certaines choses. Et puis ma foi j'essaie de le mettre à contribution dans ce que je fais maintenant, dans tous les projets que je fais quoi. C'est pas toujours évident, hein. C'est une évolution lente.
C'est vrai, c'est vrai. C'est une obligation Arnaud de se produire en acoustique pour pouvoir atteindre des petits lieux.
Oui, bah il y a aussi ça, ouais, bien sûr, ouais, il y a des lieux, bah effectivement. C'est sûr qu'il y a des lieux, c'est impossible que je vienne jouer avec Malton Milk. Je dis pas qu'on écoute extrêmement cher, mais je veux dire, on est éparpillé un petit peu partout. Parce qu'il y avait quand même à Paris, à Saint-Lô, Angers, bon ça c'est moins loin de Nantes, mais enfin en tout cas quand on va jouer, il y a quand même des frais qui sont inhérents déjà à la base du truc. Donc,
et puis il faut quelques mètres carrés sur scène aussi quand même.
Exactement, il y a ça aussi, donc non c'est vrai, et puis je pense que c'est aussi une approche, ça nous empêche pas de temps en temps de faire des trucs un peu exceptionnels sur des cafés-concerts, on l'a fait... dans un lieu qui s'appelle Le Nid à Nantes, parce qu'ils fêtaient leurs 5 ans et qu'ils voulaient vraiment absolument qu'on vienne jouer là-bas. Donc c'est vrai qu'on voilà, on, exceptionnellement, on fait des, entre guillemets, des petites dates. Mais en même temps, on adore le faire, hein. Il n'y a pas de souci. C'est vrai que c'est moins évident d'avoir le budget pour se déplacer tout le monde et tout ça. Voilà, parce qu'on est 8, on est 8 quoi, enfin, dans l'équipe. Quoi. Donc ouais. Ça fait du monde à bouger. Quoi.
On va écouter un tout petit extrait, on va écouter quelques secondes d'un des titres qui figure sur ton nouvel album, qui s'appelle Steady Rolling Man. Ça s'appelle If I Get Lucky.
If I get lucky, I'll just make my transfer home. If I
on écoutera tout à l'heure des extraits entiers, bien sûr, de, ouais. De ce disque-là. Je voulais qu'on écoute ça parce que ces deux premières entrées en matière au niveau du chant, on parlait de ta tessiture. Moi, j'ai pensé à un chanteur comme Seth Walker. Je ne sais pas si ça te parle.
Ah, je ne connais pas. Bah,
il faudra que tu écoutes ça. Seth Walker, excellent. Seth, S-E-T-H, hein, comme l'un des fils.
Compris, ouais.
Et puis, un tout petit peu, mais alors ça reste peut-être dans un petit coin de mon cœur, à Sean Costello. Mais bon, là,
Sean Costello, moi, je suis un fan. J'étais fan de Sean Noël.
Alors cet album, pourquoi un album acoustique? Et surtout, j'allais dire, pourquoi un album acoustique à 4? Parce que tu t'es adjoint les services du batteur et du bassiste de Molten Milk, en plus de Thomas Troussier, dont on vient de parler. Donc, deux Normands et deux Nantais, c'est bien ça, Arnaud, hein?
Exactement, ouais, tout à fait. Ouais.
Et pour le meilleur et pour le meilleur, parce que franchement, je l'ai écouté tout récemment, tu vois, je viens de le recevoir et il n'y a absolument rien à jeter. Il y a eu d'autres titres comme ça qui étaient prévus pour figurer dans l'album, ou est-ce que ça a été vraiment une addition et non pas une soustraction? Comment vous avez procédé?
On a procédé, on avait beaucoup plus de, enfin, on avait pas mal plus de morceaux que de ce qu'on voulait garder.
D'accord.
Tout simplement. Ouais. Donc, du coup, on en a fait, je sais plus, 17, 18. Et puis, après, on a écrémé, quoi. Disons, on s'est dit, tiens, ça, c'est vraiment c'est plus pertinent qu'un autre. Il y avait d'autres morceaux qu'on aimait bien, mais qui étaient peut-être, entre guillemets, un peu plus classiques. Et du coup, on voulait, je pense que le but, c'était quand même d'avoir un tableau par morceau, quoi. C'est-à-dire que chaque morceau est défini par, je sais pas comment dire, par un type de groove ou, si c'est joué au slide ou en acoustique, si c'est dans tel état d'esprit. Et je pense que, même s'il y a, je pense qu'il y a un son, une homogénéité de disque au niveau du son, la volonté c'était aussi d'explorer différentes couleurs, quoi. Vraiment. Et puis aussi, un couleur au niveau de la forme des morceaux, mais aussi aux couleurs au niveau de la production. Et puis aussi, comment dire, de quoi je voulais parler, enfin, de quoi je voulais. Causer artistiquement dans les morceaux sans forcément parler que des textes ou des artistes dont on a repris les chansons.
Voilà,
mais aussi l'état d'esprit, tu vois. Je pense à Steady Rolling Man par exemple, qui est le premier morceau du disque. C'est un morceau de Robert Johnson, bien sûr, mais il y a une influence. Laurie, ça fait penser à du Johnny Hooker, et puis en même temps, l'ensemble avec les percus derrière, ça ferait penser à du Farcatoré, quoi. Donc, si tu veux,
c'est vrai. Ça s'entend d'autant plus sur les 30 dernières secondes où il n'y a quasiment plus que de la percu. Tiens, on écoute quelques secondes de Steady Rolling Man, justement, Arnaud.
Ouais.
Si on m'avait dit que ça figurait dans un album de Tao et Vincent Buchet, je l'aurais cru, franchement.
Oui, hein, c'est clair.
Ouais, j'en suis sûr. Version, donc pas du tout la version Robert Johnson de 1900, je sais plus, 37, un truc comme ça.
Ouais.
Robert Johnson, c'est la seule reprise que tu t'es autorisé dans l'album, hein, c'est ça?
Ouais, exactement.
Et il y a d'autres artistes comme ça qu'on va passer en revue. Il y a Toot Rains Running. Allez, on se passe les petites intros à chaque fois, si tu veux bien.
Allez.
Ça, c'est qui, au départ?
Donc ça c'est Buddy Waters.
Voilà.
Puis là on a changé de riff, quoi, carrément. Le riff de guitare, je l'ai trouvé comme ça, en me disant tiens, ça sonne pas mal. Et puis,
tu utilises une nationale sur ce titre-là, non?
Ouais, c'est une nationale, ouais. Enfin, c'est pas une vraie d'ailleurs. Depuis, je me suis acheté la vraie.
Mais... Faut pas le dire.
À l'époque, c'était une copine.
Ah mais elle sonne quand même, hein.
Bah, elle sonne bien. Ouais.
Carrément. Alors, ça va être frustrant pour les auditeurs parce que là, tu as vu, on va se faire une série d'intros. On va écouter If I Get Lucky, on va sauter directement à I Can't Judge Nobody.
Ça va
Et là, Jimmy Reed pas mort, quoi, j'ai envie de dire.
Oui, c'est ça, ouais. Il y avait un morceau, je voulais faire ça. Et puis, Laurent s'est passé par là aussi au studio, donc on dit, tiens, on va mettre. Et puis,
Tu parles de Laurence Bacon, pardon.
Ouais, Laurence Le Bacon, ouais.
Parce que je n'ai pas la pochette sous les yeux, c'est pour ça.
Oui, c'est ça, ouais, je comprends, ouais, bien sûr, enfin, mal, donc je vais te donner des indications que tu n'as pas. Et dans ce morceau-là, il y avait cette influence Jimmy Reed et. C'est sûr, même si c'est pas un morceau de lui, c'est Little Smokey Smothers.
Ah oui.
Mais il y a cette influence-là, puis je pense que dans l'idée du cœur de féminin derrière, c'est aussi l'état d'esprit un peu des trucs de Jimmy Vaughan, avec Louane Barton.
Ah oui, d'accord, Jimmy Vaughan et Louane Barton, bien sûr.
Ouais, voilà, pour moi, voilà, c'est des choses comme ça, des petites couleurs qu'on a dans la tête, puis on me dit, tiens, c'est vrai que ça pourrait être un certain genre de choses,
ouais.
Comme des petits ingrédients qu'on met, quoi.
On va continuer à avancer dans l'album, Arnaud, mais je voulais faire une petite parenthèse par rapport à l'enregistrement. Comment vous avez procédé? Vous avez fait du heureux ou c'est tout en live?
Bon, en fait, c'est tout live, ouais. Tout live, sauf il y a quelques chansons où j'ai voulu garder de l'espace pour faire le chant tranquillement après. Donc il y a des morceaux, notamment Fellow Rolling Man, ils étaient en direct, tout en direct, y compris le chant. Et puis après, les autres morceaux, je me suis posé, on a posé la rythmique, et après, j'ai fait le chant, mais par contre, c'est que les seuls heureux qui ont été faits. C'est uniquement le chant. Sinon, tout a été fait en direct. Il n'y a pas eu de re-re, même de percussion ou quoi que ce soit. Et je pense que c'était l'idée du truc, justement, c'était de garder quelque chose de très dépouillé et de ne pas rajouter des couches derrière, quoi. Enfin, vraiment, d'essayer d'être le plus. Il y a même des chansons, d'ailleurs, où je me suis dit, tiens, je referais bien le chant. Parce que je pouvais quand même si j'avais fait en live, j'avais pas trop de reprises dans mon micro et j'avais pas trop les autres instruments dans mon micro, donc je pouvais peut-être le refaire. Puis en fait, après, je me suis dit non, je perds quelque chose. En fait, à chaque fois, je voulais refaire quelque chose, je me suis dit non, je perds un truc. Donc, il faut mieux que je garde l'original qui est peut-être ses défauts, mais qui a sa vérité, quoi, entre guillemets, quoi, sur le moment, quoi, avec le jouage avec les autres. Quoi. Donc, c'était hyper intéressant comme démarche parce que bon, on l'a fait à la maison, en fait, on l'a pas fait dans un vrai studio.
Donc ça veut dire que vous preniez votre temps, vous y reveniez à l'heure que vous voulez.
On avait d'autres rythmes dans la semaine, on avait une semaine à peu près, on s'était calé une semaine et puis on a essayé de chercher, d'écouter les prises qu'on avait faites pour voir ce qu'on pouvait améliorer. Mais c'est vrai qu'on a, c'est comme si on avait fait un mix à la prise de son, si tu veux, pour trouver déjà un équilibre pour jouer entre nous en fait. Et c'est vrai que c'est des choses qui peuvent des fois en studio être longs à pouvoir faire. Parce que l'ingé son a plein de paramètres à gérer qui ne lui permettent pas forcément toujours de mettre en place les choses pour que l'artiste puisse vraiment être dans sa bulle et dans une aspiration totale. Et
d'accord.
C'est vrai que nous, je pense qu'on a pris le temps justement pour dire là je suis à l'aise pour jouer, je me sens bien et voilà. Et c'est vrai qu'avec Thomas, ça va être hyper important pour tous les deux d'avoir cette immersion et de pouvoir jouer d'une manière tout à fait détendue.
Ça s'entend bien dans le jeu de contrebasse de Igor derrière, qui a pris son temps pour arriver dans le morceau, hein, qui s'est installé tranquillement en acoustique avec ta guitare et puis basse batterie derrière. C'est alors le batteur, rappelle-moi le nom du batteur.
Ouais, donc c'est Richard Rousset.
Richard Rousset, voilà, j'avais plus le prénom. Voilà.
Et là c'est vraiment que des percus, enfin il y a quelques pièces. Un petit élément de percussion qu'ils utilisent d'une manière tout à fait d'ailleurs je trouve très très subtile et avec aussi le caron, quoi, le caron qui joue un peu le rôle grosse caisse entre guillemets sur le disque.
Ouais. Et ça c'est un titre Walk With Your Maker que vous avez fait en clip, non?
Ouais, on l'a fait en clip il y a un an et demi là justement ça préfigurait un petit peu le travail de Rose Trombo. Et ça ouais, c'est un morceau qu'on aimait bien de Nathan James. Qui est un artiste plutôt contemporain,
qui évolue en acoustique ou en électrique, un peu comme toi d'ailleurs.
Je trouve qu'il y a une vraie, qui est plutôt dans la tradition, parce que je pense que ce qu'il joue c'est plutôt dans la tradition.
C'est
mais,
des
mais
par contre, on la teste,
Ouais, mais je trouve ça hyper bien, quoi. Je trouve c'est hyper, je trouve que c'est un artiste excellent j'adore son approche, en plus il fait de la prod, d'ailleurs il fait aussi des.
Ça m'étonne pas parce que c'est un artiste de ta génération, vous avez les mêmes. l'impression que vous avez la même discographie à la maison, vous écoutez un peu les
ouais,
mêmes.
Oui, oui, non, je pense que c'est quand même quelqu'un qui est quand même dans une tradition. Moi, je suis un peu, je sais pas, après, c'est plein d'autres choses aussi, mais
demande à Nathan James s'il écoute Led Zeppelin de temps en temps, tu seras peut-être surpris.
C'est clair. Vraiment, en tout cas, j'adore ce mec, je pense que c'est un chouette gars et. Et j'adore ce qu'il fait, quoi. C'est, je trouve ça très intéressant.
Ouais, ouais, il vient pas assez souvent nous voir en France. Et non, c'est vrai que je me souviens d'une époque où il se produisait avec un pianiste dont le nom m'échappe, là, qui, celui, le garçon qui a épousé. Enfin bref, c'était les souvenirs du Bécard, ça. Le Bécard, tu t'en souviens aussi,
toi. Ah oui, exact. Ouais, tout à fait.
Quelques années. Nathan James, oui, reprendre du Nathan James. Voilà, on arrive maintenant à prendre du Nathan James parce que c'est un garçon, on peut pas dire que ce soit un des créateurs du blues, bien sûr. C'est l'un des fers de lance de ce qui peut se passer dans le domaine de la roots music, on va dire de l'autre côté, c'est vraiment en Californie qu'il vit Nathan, avec des gens comme James Harman, qui lui est un petit peu son aîné quand même. Voilà, il y a des gens qui perpétuent une certaine tradition sans que ce soit forcément du Chicago blues. Hein, il faut bien comprendre ça. Le blues de Chicago, c'est pas le seul qui existe. Ça tu le défends depuis des années, toi aussi, Arnaud.
Bien sûr, tout à fait. Ouais.
Allez, Don't Leave Me. Alors ça, c'est un titre de qui? Ouais. C'est une reprise de qui, ça, Arnaud?
Alors, ça, c'est une reprise de Buddy Guy et du Norwell.
Alors, ça figure dans quel album? Parce que je t'avoue que ça m'a
choqué. C'est dans l'album acoustique qui s'appelle...
Alive on Unplugged.
Live on... Non, c'est Live Alone on Acoustic ou un truc comme ça, je sais
plus. Ah, d'accord, Alone on Acoustic.
Ouais, je trouve que c'est une pochette bleue avec sa photo.
Ah, c'était chez Isabelle Records, un truc comme
ça. Ouais, je crois que c'est ça, ouais. Exactement.
Ok. C'est un truc à écouter au casque, hein. C'est ce que je suis en train de faire, Arnaud, parce que franchement, on a vraiment l'oreille placée juste à côté de la caisse de résonance de ta guitare. Là.
C'est, ouais, exactement, c'est bah, le micro c'est pas loin. Hein.
Oui, sûrement.
Ouais, c'était pour cela, c'est. Il y avait vraiment une façon de voir les choses un peu. Alors moi, c'était un peu entre les disques pour moi de Latino Kids et aussi l'album Funk Finger de Muddy Waters.
Oui. D'accord.
Il y avait vraiment un mélange des deux mondes là-dedans parce que j'adore ce disque de Muddy Waters. Et aussi j'adore Latino Kids, c'est le premier album que j'avais eu qui s'appelle, je sais plus comment il s'appelle, mais le vinyle qu'on m'avait donné quand j'avais 15 ans.
Ah ouais.
Et c'est vrai que quand je réécoute ce disque-là, il y a toujours un son que j'adore, enfin, une espèce de son organique de batterie et de guitare et d'un chant qui est énorme, enfin qui sonne monstrueux. Et il y avait cette identité et le côté très dépouillé. C'est-à-dire qu'au début, quand on a joué le morceau, je me souviens de la session, les premières fois qu'on l'a joué, Richard avait tendance à me suivre un peu trop, entre guillemets, c'est-à-dire que le jouer que finalement la batterie soit quelque chose qui reste avec vachement d'espace et très peu de relance, parce que c'est vrai qu'en plus, il y a souvent ce côté, on relance avec la batterie, mais là, du coup, je voulais justement garder cet espace et que jusqu'à un certain moment dans le morceau, qu'on ait vraiment un sentiment d'espace, quoi. Et voilà, je pense que c'est ce qu'on a essayé de faire là-dedans, dans ce morceau-là.
Je pense que c'est réussi, c'est très
avec
très
le reverb, un peu à l'ancienne et tout ça, même si c'est bon, on n'a pas fait ça. J'aurais bien voulu faire ce disque avec des moyens plus analogiques, hein, plus avec des bandes et tout ça, bon, on n'avait plus pas ces moyens-là. Donc on l'a fait en numérique, mais on a essayé aussi quand même de, même en étant numérique, de se rapprocher avec de quelque chose de roots, mais tout en pas forcément en cherchant le côté trop vintage des choses, puisqu'on n'avait pas le matos vintage, quoi. Donc justement d'utiliser ce qu'on avait, mais de faire quelque chose qui avait quand même cette largeur de son que peuvent avoir d'ailleurs certains enregistrements. C'est ça que j'aime bien dans l'approche de faire de ce genre de musique là, c'est qu'on écoute certains disques des vieux albums, on pense que c'est des sons qui sont lofi, c'est-à-dire où il n'y a pas beaucoup de basses, où c'est très. Bah, comme dans les enregistrements des années 30, quoi, je veux dire. C'est vrai, quand on écoute les albums à partir des années 60, de Latino Kids ou de plein de disques d'ailleurs de plein d'artistes de blues, ben on a quand même des sons qui sont des albums qui ont des sons qui sont hyper larges, vachement